Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Agités de la classe. Les Agités de la classe, c'est le podcast de la communauté Agito où on parle pratique de classe. Alors dans cet épisode, on arpentera les allées virtuelles de la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. On transposera les hémicycles de la COP21 dans nos classes et on discutera à bâtons rompus lors d'un point qui tue consacré cette fois-ci au début de cours. Pour aborder tous ces sujets, j'accueille aujourd'hui avec moi Seb. Coucou Seb, ça va ?
Ça va, salut. Écoute, content du retour, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble, alors ça me fait plaisir d'être là.
Ça commence à faire un petit moment, ouais. Quoi de neuf de ton côté, dans tes classes ?
Dans mes classes, alors je suis content parce que j'ai des super apprenants. En revanche, c'est vrai qu'au niveau du boulot, c'est un petit peu dur parce qu'on a un déménagement à prévoir, des nouveaux locaux qui vont arriver, mais pas tout de suite, donc un trimestre un petit peu bancal qui va pointer le bout de son nez en janvier, et donc ça va être c'est un petit peu tendu, on va dire, en ce moment.
Non, mais on espère que ça va un petit peu s'arranger et que tu vas pouvoir profiter un petit peu de la fin d'année et des fêtes qui vont suivre.
Hein. Yep.
Aux côtés de Seb, on accueille Pascaline. Tout va bien
oui,
sur ton côté, Pascaline.
Salut Fred, salut Seb. Tout va bien. Tout va bien. Je suis toujours à Bordeaux là, avec la saison hivernale qui s'installe lentement, mais sûrement.
Quoi de neuf dans tes classes, Pascaline ?
Justement, il n'y a rien de neuf dans ma classe puisque, en fait, je viens de terminer mon master et j'ai soutenu et ça s'est pas trop mal passé, donc, et au point que ça me manque de réfléchir, en fait, sur un sujet précis et d'écrire. Et j'envisage même, par la suite, une thèse qui s'inscrirait vraiment sur le terrain. Et donc, voilà, idéalement, si une entreprise me finançait, je me lancerais dans une thèse, je pense.
Si les gens nous écoutent et qui ont des idées...
Et des finances.
Céline est disponible. Et des finances, oui, et des finances, c'est vrai. Parce qu'elle est disponible et elle est à fond, elle est partie sur sa lancée. Rien ne peut l'arrêter.
Ouais, c'est un beau projet.
Oui, c'est ça.
Sinon, ouais.
J'ai un autre projet, c'est trouver un emploi donc, en France ou en Europe. Ça, c'est un petit peu plus sérieux. Et toi, Fred, raconte-nous tout. Oui, tu es de retour.
Oui, je suis de retour un petit peu en France, voilà. Je crois qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois. J'ai arrêté mes cours à Taïwan et je suis rentré en France. Je viens tout juste d'arriver, à Bordeaux aussi, avec le beau temps. Donc on pourra se voir peut-être pour faire un épisode, un de ces jours, en live. Seb, il va falloir que tu viennes nous rejoindre.
L'été.
En été, ok, on a pris le rendez-vous. Pour l'instant, rien de neuf dans mes classes, étant donné que je n'ai pas de classe. Donc, je vous propose de passer directement au point qui tue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On est d'accord ?
C'est parti.
C'est parti, alors.
Alors, dans le point qui tue, cette semaine, on a décidé de parler des débuts de cours, parce que c'est toujours un petit moment un peu étrange quand les étudiants arrivent, et puis tout le monde n'est pas encore là, tout le monde s'installe, et comment on commence son cours, c'est toujours un moment un petit peu délicat. Et ce que je vous propose, Pascaline et Fred, c'est de faire peut-être en deux temps, de voir d'abord comment on fait avec les grands débutants, et puis peut-être après avec les niveaux un peu plus avancés, parce qu'on ne gère pas tout à fait nos classes de la même façon. Et je vais poser la question tout simplement, Pascaline, comment tu fais toi quand tes grands débutants arrivent en cours au début ?
Alors, avec les grands débutants, c'est vrai que c'est très important d'établir un rituel en début de cours pour créer du lien à la fois entre l'enseignant et les étudiants, et puis entre les étudiants eux-mêmes. Alors moi, ce que j'ai fait et qui a très très bien marché avec mon public asiatique, je dirais que c'est aussi important un petit peu de l'adapter à l'âge et à la culture du public auquel on enseigne, c'est des relais qui portent souvent sur la conjugaison, mais ça peut être aussi sur du vocabulaire comme des dictées relais. Donc on écarte toutes les tables qui sont installées en U, on dégage la salle et puis les étudiants se mettent en deux équipes. Et à ce moment-là, soit je tire des fiches, soit c'est moi qui lance par exemple des verbes avec des points sur lesquels on a travaillé et on compte les points et en fait ça motive énormément les étudiants. Alors peut-être que la première fois ils sont un petit peu surpris, surtout je pense que tu peux te l'imaginer Fred, les étudiants asiatiques ils sont pas nécessairement habitués à ce type de rituel et à ce type de jeu. Et puis en fait, ils sont très très demandeurs et on s'aperçoit que il y a vraiment une solidarité qui s'installe, un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Et puis tout le monde est détendu et puis très dynamisé. Et donc en fait, quand les étudiants retournent s'asseoir à leur place, moi mes cours ont lieu essentiellement le matin, j'ai des étudiants qui sont dynamisés, qui ont le sourire, qui sont éveillés aussi parce qu'ils se sont bougés, parce qu'ils se sont encouragés et qui sont dans de bonnes conditions pour commencer un cours de communication.
Ouais, alors tu disais hein, effectivement en fonction du public et puis du contexte, ça peut changer. Toi Fred, tu fais comment tes débuts de cours ?
Avec des grands débutants, donc finalement, ça se rapproche un petit peu, à part pour l'activité en elle-même, de ce que vient de dire Pascaline, dans l'objectif d'arriver à motiver, effectivement, parfois de réveiller un petit peu les apprenants, que ce soit le matin. J'avais pas mal d'étudiants à Taïwan, que ce soit le matin en semaine ou le soir, si ce n'était pas des étudiants après le travail. Je ne faisais pas. Alors, toi, Pascaline, tu faisais un relais, c'est ça, sur du lexique
Ouais, sur des points qu'on avait vus, des choses assez simples.
Ouais. Je faisais pas mal sur des révisions un petit peu quoi, des révisions sur du lexique. Il y avait une activité que j'aimais bien et qui était assez dynamique aussi et qui permettait un petit peu de gérer aussi les arrivées tardives des apprenants. C'était un mime pour arriver à récupérer du vocabulaire qui avait déjà été vu le cours précédemment. Donc oui, c'est un mime, c'est-à-dire un petit peu comme un dessiner, c'est gagné. Il y a une petite astuce que je rajoute plus dans la manière de faire, parce que j'ai des groupes qui sont quand même assez souvent importants, c'est-à-dire peut-être une quinzaine d'étudiants. Et le problème du dessiner, c'est gagné, soit il y a une personne devant, il y a toute la classe qui essaie de participer en même temps, soit on fait des groupes, et là, il y a plutôt un groupe qui est actif et les autres qui sont un peu inactifs. Dans le genre, donc si on travaille par équipe. Donc j'avais utilisé une petite astuce. J'utilise beaucoup, moi, en classe, en fait, un ustensile très, très compliqué et très, très cher, hein, des tablettes non numériques, j'ai envie de dire. Non, des petits tableaux Velleda, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des petits tableaux, des ardoises blanches Velleda. Et en fait, j'en distribue un par équipe. Et donc, il y a une équipe qui fait vraiment dessiner ses gagnés, donc avec une personne... Qui mime quelque chose et l'équipe qui doit essayer de le dire à l'oral. Et les autres équipes, en fait, ne sont pas passives, doivent essayer de deviner, non pas le dire à l'oral, mais doivent écrire ce qu'elles pensent, l'autre mime, en fait, à l'écrit, en fait. Et du coup, ça permet en fait, que toute la classe soit active au même moment et d'avoir une rotation assez rapide. C'est le genre de choses que je fais. Comme tu disais, avec un public asiatique, la première fois, ils sont un petit peu surpris, mais bon, tu as utilisé le mot rituel. C'est le truc qu'on le fait assez souvent. Moi, j'ai quelques autres activités. J'essaie de revenir un petit peu sur ces activités. La première fois, ça en prend un petit peu plus de temps à expliquer. Mais l'objectif, vraiment, c'est de, une fois qu'ils ont compris une première fois, de le réinvestir, quitte à faire quelques petites variations pour que ça aille un petit peu plus vite. C'est vraiment une des conditions pour moi, pour ces premières activités, que ça aille assez vite, quoi. Si on fait quelque chose de complètement nouveau à chaque fois, il faut tout réexpliquer. Si ça doit prendre 15 minutes pour expliquer l'activité et 5 minutes pour la faire, bon, on perd un petit peu l'intérêt, le dynamisme dont parlait Pascaline, en fait. Ouais. Voilà, et donc ça permet de faire une petite révision. Et pour moi, ça me permet de voir un petit peu, ça fait une petite évaluation de manière... je regarde un petit peu ce qui se passe, un petit peu une évaluation diagnostique. Est-ce que ce qu'on a vu la dernière fois, ça reste un petit peu, même si en début de cours, il faut l'avouer, même pour nous, il faut que le temps que la machine se relance, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour savoir ce qui a été vraiment assimilé ou pas. Voilà.
Ouais. Dans les jeux comme ça, c'est vrai que moi je faisais un peu le principe du relais, mais pas mal avec les nombres. Parce que c'est toujours difficile hein, pour nos apprenants les nombres et c'est vrai que ça marche bien et si on utilise des jeux comme vous le faites tous les deux c'est bien que ce soit des jeux très simples, très évidents, voire qu'ils connaissent déjà peut-être dans leur langue, parce que si on commence à expliquer ça devient une activité complète et là moi je la proscrirais en fait.
Et un point sur lequel tu as insisté, Fred, et qui me semble intéressant, c'est cette idée de répétition, à la fois parce que les règles ont été acquises, mais aussi parce que des études ont été menées, et du point de vue pédagogique, on s'est aperçu que les les étudiants étaient demandeurs en fait d'une certaine répétition dans le jeu. En fait, à partir du moment où il y a une maîtrise, il y a aussi un plaisir qui accompagne cette maîtrise et le fait de retrouver un jeu dans lequel on va pouvoir exceller au lieu de se sentir à l'épreuve ou évalué.
C'est ça, ouais. Je pense qu'on vise, dès qu'on connaît un petit peu l'environnement, donc ici, si c'est un jeu, les règles du jeu, on va vouloir s'améliorer et comme tu disais, voilà, on va vouloir viser un petit peu l'excellence et essayer de se dépasser et accessoirement dépasser les autres, si c'est amusant. Ouais. Et toi, Seb, tu as d'autres activités ?
Ouais, alors moi, j'ai, peut-être dans deux contextes différents, quand je travaillais pour Roulant, c'était des camps d'immersion linguistique avec des ados. Et le matin, le premier cours était aux alentours de 8h30 ou 9h, un truc comme ça. Donc, ce que je faisais, c'était de commencer le cours par une séance un peu de gymnastique, s'étirer, etc. Ça peut s'adapter après aux adultes. Il faut vraiment, vous parliez de rituel, il faut vraiment le mettre en rituel parce qu'après, on peut déléguer à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse mener la séance et puis dire aux autres de s'étirer, de tourner la tête, etc. pour se réveiller un petit peu. Bon, là, c'est un contexte un peu particulier. Sinon, je vais passer un peu pour le rabat-joie de service. Mais avec mes adultes, ce que je fais...
Des interrogations surprises.
Non, c'est pas ça quand même. Mais ce que je fais beaucoup, c'est de commencer par une séance de phonétique qui reprend en fait les phonèmes ou les sons qu'on a travaillés le cours précédent. Et comme ils arrivent un peu au compte-gouttes parce qu'ils sortent du travail, eh ben ça permet d'avoir un petit peu plus d'attention à comment ils prononcent, etc. Plutôt que quand on en a 15 ou 20 devant soi, c'est difficile de... On perd beaucoup de temps avec la prononciation, c'est nécessaire, mais quand il y en a un qui prononce, pour bien l'écouter, essayer de diagnostiquer, etc., et puis de corriger derrière, c'est pas toujours simple. Donc si je le refais au début, donc je vais avoir deux moments de phonétique comme ça dans le cours et je reprends celui du cours précédent au début du cours. Parfois aussi quand je donne du travail à la maison, j'ai souvent dit, j'utilise Edmodo, donc ils me rendent leurs devoirs avant le cours et souvent j'ai le temps de corriger avant le cours et j'aime bien reprendre des petites erreurs qui sont assez caractéristiques du groupe et de retravailler aussi avec eux. Ça, ce serait un peu ma transition pour revenir à l'aspect cours. Tu vois, au lieu de partir sur les chapeaux de roue avec des jeux, etc., puis après, ne pas, enfin, tu vois, embrayer directement, ça fait une petite transition et ça réenchaîne bien sur ce qu'on a fait, surtout dans le contexte, dans mon contexte de travail où on travaille par tâches un peu scénarisées. Il faut reprendre un petit peu tout le contexte dans lequel on travaille, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on doit encore faire, etc., quoi.
Ok. Ouais, c'est vrai que c'est plus sérieux. Hein.
Ouais, ça paraît plus sérieux. Ouais. Mais j'exclus pas les jeux. D'ailleurs, j'ai refait un speech là cette semaine, tu vois, dans le cours. Mais c'est vrai que un jeu comme speech, par exemple, j'hésite à le faire dans sa formule normale en début de cours. Je le mettrais plutôt au milieu de cours pour redynamiser et puis après repartir, quoi.
Ouais, speech en début de cours.
Okay.
Avec les adultes, pas avec les adultes, c'est un peu.
Tu veux dire avec les autres niveaux.
Avec les autres niveaux et avec les. Ouais, c'est fou, hein. Ouais. Alors que je joue moi-même beaucoup.
Exactement.
Quoi.
On ne te connaîtrait pas.
avec les niveaux un peu plus avancés, vous avez une autre approche ou c'est assez similaire, Pascaline, par exemple.
Alors moi, c'est un petit peu plus sérieux avec les niveaux avancés, je dirais, avec les B1 et les B2. Même si ponctuellement je peux mettre en place des relais qui vont porter sur des points précis, je tiens vraiment à cette idée de dynamiser les étudiants en sachant qu'on va être ensemble pour 5 ou 6 heures par la suite. C'est une revue de presse simplifiée en fait. Donc il y a un présentateur et puis il y a des journalistes. Donc c'est un jeu de rôle. On rapproche vraiment les tables qui sont d'habitude en U. Et puis chaque étudiant a sélectionné un fait, une actualité, un événement dans un pays francophone, en général la France, à la maison, avec un titre. Et puis voilà, l'objectif, c'est à la fois pour eux, donc on est dans des objectifs pédagogiques plus sérieux, hein, c'est c'est de s'intéresser à l'actualité francophone, d'aller fouiller un petit peu ou d'être plus attentif à ce qui se passe, et puis d'essayer dans un cadre un peu plus authentique de retenir, de présenter quelque chose qui les a intéressés. Alors c'est pas tout simple, mais du coup ça crée vraiment un moment un petit peu spécial, et puis il y a ce jeu de rôle qui je dirais allège un petit peu la charge de la production orale. Voilà.
Et il la prépare en amont, cette revue de presse ou
Ouais, tout à fait, c'est à la maison. Alors là aussi, c'est pas toujours évident, je dirais, pour un public chinois, en connaissant la cybercensure, hein, la difficulté pour les étudiants d'accéder à l'information étrangère en dehors des sites chinois, sans compter les problèmes de connexion eux-mêmes ou l'absence tout simplement d'une connexion à Internet. Mais grosso modo, ils arrivaient à préparer, je dirais, pour une majorité avant le début du cours, à sélectionner une actualité, très souvent je dirais un crime ou un problème économique en France, et puis à présenter ce fait aux autres étudiants. Hein, c'est très très simple, ça dure à peine une minute pour chaque étudiant.
Et c'est vrai, t'as jamais eu de mauvaises surprises, si quelqu'un n'a pas préparé ou si c'est un sujet un peu trop sensible
Pas de questions au niveau de la sensibilité. C'est plutôt parfois la difficulté de se comprendre. Donc il y a besoin. Ben, l'enseignant, il est là aussi pour être médiateur et pour amener l'étudiant à préciser. Mais sinon, il y a le journaliste présentateur qui est là et puis qui répartit et qui parle à un autre journaliste. Donc voilà.
Et c'est de quel niveau, tu disais, Pascaline, pour ça ?
Là, je fais ça à partir du B1, puisqu'on est déjà amené à étudier, donc on travaillait avec Alter Ego Plus, on est déjà amené à étudier la presse, les titres de presse, c'est d'ailleurs dès le niveau A2, me semble-t-il, dans Alter Ego Plus. Et puis, on poursuit ça sur du B2, voilà, avec un peu plus d'attente sur du B2.
Ouais, d'accord, donc c'est si c'est du B1 alter ego, ok.
Il y a deux parties hein, dans alter ego, je crois qu'à partir du dossier 5 on passe sur du B2, mais dès le niveau A2 on aborde déjà la question des médias, et puis au niveau B1 on aborde la question du titre, hein, des titres d'actualité. Ça peut se faire aussi beaucoup plus simplement, hein, juste un titre et puis une information.
Et Fred, toi alors, tu fais comment?
Ça dépend vraiment en fait de la classe, des objectifs. Donc ça c'est vraiment très 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 varié. De manière générale, j'essaie dans tous les cas de créer un pont avec ce qui a été fait, ce qui a été vu, soit au cours d'avant, soit dernièrement. Ça peut être parfois si on a eu peut-être parfois à faire une tâche ensemble. Alors même si c'est une tâche qui a pris pas mal de temps la première fois qu'on l'a faite, à préparer, etc., à préparer, à mettre en place avec des sous-objectifs, ce genre de choses. Une fois qu'elle a été faite une première fois, parfois quelques cours un peu plus tard, je leur repropose une variation, on va dire, de cette tâche pour qu'ils essaient de réinvestir un petit peu leurs acquis et de réutiliser les différentes compétences qu'ils avaient donc découvertes, on va dire, et peu à peu maîtrisées, si on peut utiliser le mot, dans des sessions précédentes. Donc essayer de réinvestir tout ça dans un contexte assez similaire avec ce qu'on avait déjà fait, mais avec toujours des petites variations afin de réviser et tout simplement, ouais, non, de réinvestir, je réutilise le mot, ce qu'ils avaient déjà vu. Après, de manière un peu plus simple, notamment sur des B2, comme on parle de différents thèmes assez différents, très souvent, pour revenir sur des thèmes dont on a déjà parlé, mais pour les aborder peut-être avec un point de vue un petit peu différent ou avec une touche d'humour, si ça a été assez sérieux, au contraire, si c'était un petit peu un sujet un peu léger, y réfléchir de manière un peu plus approfondie, je vais essayer de trouver un document authentique sur Internet. Le plus souvent très visuel, donc ça peut être une infographie, si ça s'y prête, si je trouve quelque chose de bien, ça peut être ce dont j'avais déjà parlé dans un épisode précédent, les mini-infographies de 365data.fr, où il y a une petite infographie par jour, donc par exemple avec le jour des... aujourd'hui, c'est quoi? Je ne sais plus. C'était la journée mondiale de la bonté, par exemple. J'essaie de retrouver un document le plus visuel possible, qui fasse référence à des choses dont on a déjà parlé, sur l'éducation, par exemple, et qui fasse aussi possible réagir un petit peu les apprenants. Donc peut-être qu'il y a une petite pointe de folie dedans, ou bon, pour du B2, on n'est pas encore normalement dans l'implicite, mais quelque chose d'assez... une donnée, par exemple, vu qu'on est dans les infographies, une donnée qui peut être un petit peu surprenante, qui naturellement va être amenée à réagir un petit peu les apprenants. Je leur montre, je le projecte si possible, si j'ai le matériel nécessaire, et pour des B2 en tout cas, et je leur demande tout simplement de réagir avec peu de consignes et de rentrer même un petit peu dans le cours.
C'est vrai que c'est une très bonne idée, ça, pour susciter de la communication authentique, de réagir avec un support visuel. Lorsque j'étais à Shanghai, j'utilisais une photo du jour qu'on peut trouver sur différents journaux. Alors, je puisais dans le New York Times et dans le Guardian. Et parfois, ce sont des photos un petit peu insolites où les étudiants sont amenés à réagir, à deviner de quoi il s'agit. Et puis voilà, c'est un petit peu énigmatique. Et puis ça fait appel aussi à autre chose qu'à des savoirs, en fait, qu'à des compétences linguistiques. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'aime bien ça aussi. Ouais. Je trouve que c'est une très bonne idée.
La photo que j'ai pas abordée, je pense que c'est un bon complément.
Dans le même ordre vos idées, je sais qu'il y a plusieurs sites d'info, tu sais, qui proposent 24 heures en photo, etc. Et justement, moi, je passais les photos en leur demandant d'essayer de me dire de quoi il s'agissait. Ça permettait de voir aussi ceux qui s'intéressaient, etc. Puis il y avait, bon, du coup, il y a des photos faciles et d'autres qui sont plus difficiles, quoi. Mais en général, ce sont des belles photos. Il vaut mieux quand même regarder avant parce qu'il peut y avoir des photos assez choquantes, mais c'est une bonne façon de passer un peu en revue la presse sans faire une revue de presse complète si les apprenants n'ont pas le temps, par exemple, de préparer ça en plus du cours.
En écoutant Pascaline, c'est ce qui me faisait un petit peu peur, effectivement. C'est au niveau de la préparation. Je trouve ça super intéressant. Si les apprenants sont motivés pour le faire, c'est génial comme rituel. Après, effectivement, s'ils n'ont pas eu le temps, ça...
Sachant que c'est justement un rituel de début du cours, c'est pas l'attente que j'aurais par exemple pour une production écrite donnée à la maison, c'est-à-dire que les étudiants le font, bon, ça marche peut-être très bien avec un public chinois où chacun est responsable, même s'il y a systématiquement, je pense, un ou deux étudiants qui oublient, mais là aussi les attentes sont très légères, l'idée est vraiment d'avoir pu regarder, d'avoir pu sélectionner une actualité, que ce soit une actualité people, une actualité sur le ciné, quelque chose quoi qui les a intéressés. Voilà, je pense qu'il faut revoir au minimum les attentes pour une petite revue de presse de matinée, de début de matinée.
Bien sûr, oui. Mais moi, en fait, même sans parler d'attentes par rapport aux productions et aux productions des apprenants, au niveau de la préparation, je pensais un petit peu que c'est ce que Seb voulait dire. Même, tu vois, sélectionner, même dans la presse people, j'ai déjà fait des classes, notamment de B2, où je fais beaucoup à Taïwan. Et parfois, même pour des petites préparations que je leur demandais, ou même c'était certains, voilà, à tour de rôle, où on prévoyait plus ou moins à l'avance, je leur demandais de faire le planning eux-mêmes, de savoir qui allait préparer pour tel cours. Et donc, ils avaient en général, une personne avait une fois quelque chose un petit peu à préparer. Même là, c'était fait, j'avais l'impression, pour ceux qui le faisaient, deux minutes avant le cours, ils arrivaient, ah là, je ne l'ai pas fait, ils regardaient un petit peu rapidement sur leur téléphone. Et c'était... du coup, j'avais un petit peu abandonné. Mais ça dépend beaucoup, je pense, des classes, des pays où on enseigne.
De la personnalité, de leur motivation, tout à fait.
Seb, tu as d'autres petites choses à nous dire
Grosso modo, non. Moi, je fais à peu près comme vous. Il y a le petit moment aussi raconter nos vies, parce que parfois, j'ai des apprenants qui sont en avance. Par exemple, en niveau B1, j'ai deux apprenants qui sont tout le temps là, à peu près en même temps que moi, un quart d'heure avant le cours. Et on discute football, rugby, etc. Donc en attendant un peu les autres qui se joignent peu à peu à la conversation. Sinon, j'avais déjà parlé d'Edmodo encore une fois, mais j'aime bien aussi, ils prennent de plus en plus d'initiatives dessus. Et pour les gens qui sont nouveaux sur l'outil, j'aime bien passer en revue ce qui a été publié, les petits conseils qu'ils ont pu faire en musique. Alors des fois, je le fais un peu à contre-cœur. Hein. J'avais en A2, par exemple, un de mes apprenants qui avait recommandé la chanson Banana Split de Lio. On peut pas dire que ce soit vraiment dans mes goûts musicaux, mais bon, c'est tout. Il a recommandé à tout le monde, donc je mets en avant ça. Je dis tiens, vous avez regardé sa chanson, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé, etc. Donc toutes ces petites choses là. Et sinon, ouais, beaucoup de liens avec la séance précédente, parce que encore une fois, on est sur quelque chose de scénarisé. Donc sur une tâche comme par exemple choisir un candidat, le premier cours, on va regarder un peu le profil de poste. On aura beaucoup travaillé dessus. Bah, le cours suivant, je demande, tiens, c'est vrai, quel était le poste, quelles étaient les compétences qui étaient demandées, les savoir-faire, l'expérience, et tout ça, ça permet de rebrasser à la fois linguistiquement et puis de remettre dans le bain du scénario nos apprenants. Et sinon, pour le reste, bah, je reste toujours sur mes remédiations. Et de temps en temps, je fais aussi le conseil d'étudiants, puisqu'on est des gros fans de Netflix ici à New York. Donc Netflix, c'est un service de vidéo à la demande en streaming, hein, qui est maintenant en France aussi. Et donc, on se recommande un peu nos films les uns les autres.
Oui, c'est sympa ça.
Ouais. C'est très, très léger, quoi. Mais,
Bah, donc ce qu'on voit, c'est que ça dépend quand même vraiment du public, outre le niveau du public, le contexte d'enseignement, le contexte du pays. Parce que par exemple, tu vois, en Chine, c'est pas Netflix qui va être utilisé. Je pense qu'il y a d'autres plateformes de téléchargement que j'ignore et qui demandent vraiment de s'impliquer dans la langue chinoise pour les connaître et pour pouvoir communiquer plus spontanément. Donc, il y a vraiment le contexte d'apprentissage, le contexte culturel aussi à prendre en compte lorsqu'on crée ces rituels de début de cours.
Ouais. Et puis alors sur les rituels, hein, si vous voulez vous y intéresser aussi, moi je recommande vraiment toute la littérature qui est prévue pour les professeurs des écoles, parce que c'est quelque chose de capital pour eux. La responsabilisation, donc il y en a un qui est responsable d'effacer le tableau, l'autre qui doit qui doit arroser les plantes, un autre qui doit mettre les cartes, noter la date du jour, etc. Il y a plein de bonnes idées à piocher, tout en sachant qu'on pourra pas tout appliquer, mais eux, c'est énormément ritualisé et c'est capital pour ces profs là, parce que ça leur permet d'avancer beaucoup plus vite dans le cours. Et quand on voit une classe de CP arriver, ou même parfois des grandes sections, moi j'ai déjà vu des profs qui ne disaient rien, et on voit la classe se mettre en action comme ça tout de suite le matin, tac tac tac, sans que le prof n'ait donné aucune consigne, quoi. C'est fort.
C'est vrai que pour le jeune public, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revient, hein, l'importance du rituel, que ce soit dans l'apprentissage de la langue maternelle, l'apprentissage de la langue étrangère, c'est quelque chose de très important qui permet aussi de poser les enfants, de donner un cadre, en fait. Et puis aussi, on dit même d'apaiser, en fait, les enfants et de les préparer justement à la séance pédagogique.
Tout à fait.
Tout à fait.
Non, après, c'est vrai, c'est vrai.
Après, pour d'autres, quoi, je parle pas du jeune public, là, de manière générale, tous ces rituels, moi, je trouve ça très, très intéressant. Non, mais c'est pas par rapport au rituel en eux-mêmes, hein, c'est comme pour pas mal d'autres choses, en fait. Moi, je me suis rendu compte, ça, dans une institution, si on est le seul prof à essayer de le faire, s'il n'y a pas une espèce de coordination pédagogique au niveau de l'institution, s'il n'y a pas une volonté au niveau de l'institution, les apprenants, ils sont très surpris, ils peuvent
se dire,
tiens, là, il faut faire plein de choses, etc. C'est un petit peu fatigant. J'avais un public à Taïwan, je ne voudrais pas dire que... ils sont cool à Taïwan, ce qui est très agréable, mais ils sont cool. Du coup, quand on leur en demande un peu trop, et surtout, on est peut-être un des... Je ne sais pas, j'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'aller observer mes collègues, parce que ça ne se faisait pas trop. Ça s'acceptait pas trop, mais si on est le seul à faire ça, ça peut ne pas passer. Il y a très peu de chances finalement que ça passe, et à moins d'avoir le temps, suffisamment de temps,
pour
les apprenants de l'intérêt de la chose. Mais là, ça, il faut un certain nombre de séances, et il faut qu'ils s'y prêtent bien, en fait, qu'ils soient suffisamment ouverts à la pratique pour s'y donner à fond, et au bout d'un moment se dire ah ouais, mais en fait, on a testé, ça peut être utile, ça c'est pas mal. Voilà, c'est un petit peu dur.
Tout à fait. Hein. J'avoue que tout à fait, tes remarques sont super pertinentes, Fred. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai mis en place, cette revue de presse, je l'ai mise en place auprès d'étudiants que je connaissais, que j'ai suivis sur des niveaux A1, sur du niveau A2, que j'ai retrouvé aussi après en B1. Et comme je le disais, je pouvais avoir avec eux jusqu'à 28 heures de cours par semaine. Donc, c'est des étudiants que je connaissais très, très bien. et je veux dire que je voyais aussi effectivement leur capacité de travail, ce qu'ils étaient prêts à faire et leur motivation. J'avoue que ce serait plus difficile à mettre en place ponctuellement avec une classe que je verrai par intermittence.
Bien, et ben on va s'arrêter là pour le point qui tue, et puis on va passer à la ressource des agités, et c'est Pascaline qui va nous en parler.
C'est vrai, c'est moi qui vais vous en parler. Alors, cette ressource pour ce numéro des agités de la classe, c'est le Bonheur des Dames, au Bonheur des Dames, donc, qui est une exposition en ligne proposée par la BNF et qui me semble particulièrement intéressante pour les enseignants qui souhaitent introduire la littérature en classe de langue, qui sont amenés à l'aborder. Alors, ça commence avec Alter Ego plus B1 déjà, et puis ça se poursuit en B2. On commence déjà à voir dans l'ouvrage et à aborder des extraits d'œuvres littéraires. Je pense que cette ressource, telle qu'elle est proposée, donc il y a des passages écrits du roman de Zola, permet de développer la compétence de compréhension écrite, mais aussi la connaissance de référents culturels en langue étrangère. Et ce que j'ai aimé donc dans cette ressource de la BNF, c'est qu'elle propose des pistes pédagogiques, plusieurs pistes pédagogiques sur différents sujets. Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est qu'elle donne une autre dimension à l'œuvre de Zola. C'est-à-dire qu'au lieu d'en rester avec ce roman écrit, avec cet extrait écrit, ces questions de compréhension écrite, on va avoir à notre disposition des lettres manuscrites, des notes préparatoires, un arbre généalogique. Ça permet aux étudiants de comprendre assez spontanément, assez intuitivement, le travail de reportage effectué par Zola, ce qui serait peut-être beaucoup plus long à expliquer justement en classe de manière très théorique. Et puis un autre point que j'ai bien aimé dans cette ressource, c'est la partie qui est consacrée aux affiches. Donc il y a toute une partie qui montre donc des affiches de la fin du 19e siècle qui sont très belles sur la ville, sur les femmes. Et du coup, ça me semble intéressant de travailler aussi sur cette partie graphique qui entoure l'édition de l'ouvrage. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai retenu cette ressource cette semaine. C'est parce qu'elle apporte un supplément d'information, mais aussi elle apporte de la consistance à cette œuvre littéraire. Et puis, elle la recontextualise dans sa période historique et elle donne des renseignements qui sont intéressants et qui n'ont rien d'évident, en particulier pour un public, par exemple, chinois, qui ne s'imagine pas du tout la vie au 19e siècle en France. Voilà. Alors, les critiques qu'on pourrait apporter, ce serait, je dirais, sur la mise en page. On aimerait bien une mise en page un petit peu plus interactive, éventuellement avec un webdoc et avec des images plus grandes, plus belles. Mais je pense que ça devrait venir.
Mais c'est vrai que c'est sympa parce que souvent en littérature en FLE, on se retrouve avec des classiques tout simplement parce qu'ils sont libres de droit. Hein, ça coûte moins cher aux éditeurs et puis donc ils les adaptent. Et puis, mais je comprends parce que c'est pas non plus, à mon avis, les éditeurs gagnent pas énormément d'argent avec la littérature en FLE. Et c'est moi j'avais fait le mystère de la chambre jaune comme ça. C'était super dur à comprendre pour mes apprenants. Et c'est vrai que avoir un compagnon qui relance, enfin qui remet dans l'époque, etc. Ça peut faciliter les choses. Et je pensais par exemple à Maupassant, moi, ce que j'essaye souvent d'utiliser en cours parce que c'est des textes courts et tout. C'est pas facile à comprendre la guerre avec la Prusse et tout ça, la prostitution. Et je crois qu'il y a une expo en France en ce moment d'ailleurs sur la prostitution et Maupassant, qui a l'air vachement bien d'ailleurs. Ça peut être l'occasion d'emmener ses apprenants là-bas. C'est vrai que c'est important de les accompagner, pas seulement penser à la difficulté linguistique du texte, mais au contexte dans lequel l'histoire, l'intrigue prend place aussi. Hein.
Mmh, ouais, tout à fait. Et toi, Fred, t'en penses quoi ?
Je ne suis pas encore allé voir cette exposition, mais c'est vrai que j'en ai déjà utilisé d'autres, d'anciennes, de la BNF, les expositions virtuelles. Et c'est vrai que je les aime beaucoup, mais j'aurais un petit peu la même remarque que toi. Pascaline, par rapport au format. Je pense qu'ils ont ils doivent avoir un modèle qu'ils utilisent depuis quand même assez longtemps. Et même s'il y a une certaine qualité, une recherche graphique, au niveau de la taille, tout est assez réduit. Donc dès qu'on essaie de faire un petit peu des captures d'écran, qu'on voudrait pouvoir l'imprimer, ou même au niveau de la lecture, hein, les polices sont parfois un petit peu délicates, difficiles, ouais, un petit peu petites à lire. Et ça réduit un petit peu les utilisations parfois qu'on pourrait...
Ça la limite, c'est vrai, je suis d'accord avec toi.
Mais c'est toujours, quoi, y a toujours des contenus de qualité. Et, tu as raison d'en demander plus, mais c'est déjà, moi je trouve ça déjà pas mal. Vraiment, vraiment très intéressant, non, c'est même pas pas mal, désolé s'il y a quelqu'un qui nous écoute de la BNF. C'est un bel effort et c'est toujours une bonne immersion pour les apprenants, comme vous le précisiez tous les deux.
Ouais, donc, et puis ils font plein d'efforts sur la littérature pour enfants et tout, il y a plein de trucs, donc ouais, moi j'aime bien la BNF aussi, mais c'est vrai que...
On aime bien la BNF.
Voilà, on a le titre de l'épisode, on aime bien la BNF.
On aime bien la BNF, voilà, ça c'est un chouette titre. Ouais. Donc, mais si quelqu'un nous écoute, faites-les en un peu plus grand au niveau du format, quoi, si vous avez la possibilité. Ça serait bien.
Ou le financement.
Ou le financement, oui, aussi. Donc, merci, Pascaline, pour cette ressource. On passe maintenant à l'expérience.
Tu vas nous parler d'une simulation de la COP21, Seb, que tu essaies de mettre dans ta classe, c'est ça ?
Ouais, en fait non. non, parce que on a eu des, enfin, pour cette simulation dont j'avais déjà parlé, hein, nous on a un système d'inscription au cours qui est informatisé et ce système est tombé en panne et il est pas tombé en panne, il a été mis à jour, mais donc ça veut dire qu'il était inaccessible pendant une semaine et on a eu que 2 semaines pour prévenir nos apprenants de cette simulation et il fallait qu'ils se libèrent et bien 3 demi-journées de 2h à 6h sur leur temps de travail. Et donc, on n'a pas eu assez de participants pour mettre en place cette simulation. Mais on avait déjà bien bossé avec mon coordonnateur, une collègue, Claire, et puis une stagiaire. Alors, nous, on a des stagiaires de luxe, parce que c'est une stagiaire qui vient d'avoir son agrégation d'anglais. Et comme elle l'a eu du premier coup, elle avait le droit de faire une année tranquille en touchant la moitié de son salaire et elle a décidé de s'inscrire à une école et de faire un stage chez nous, donc c'est vraiment la stagiaire de luxe qui est super efficace et qui connaît plein de trucs, donc elle a travaillé avec nous sur cette simulation globale. Alors on a quand même bien avancé dessus puisqu'elle était quasiment prête en fait, même si elle n'a pas eu lieu. Et il faut savoir que COP21, donc les simulations sur le climat, enfin les conférences sur le climat, pardon, sont toujours des choses très techniques. À savoir que les premiers jours, par exemple, on met un texte de 136 pages et chacun fait les ajouts qu'il veut sur le brouillon. Et ensuite, il y a un modérateur, ça c'est comme ça se passe dans la réalité, hein, qui va repérer pour chaque proposition avec plusieurs options, qui va repérer les parties les plus opposées et qui va les réunir pour négocier avec eux et pouvoir choisir l'option 1, 2, 3 ou 4, voire ajouter une autre option pour avoir un texte final qu'on appellera une résolution. Et donc c'était là-dessus qu'on avait commencé à travailler, donc essayer de faire un texte. Alors on avait largement réduit parce qu'on ne pouvait pas, dire de travailler sur 136 pages de propositions. On s'était limité donc à l'objectif de plus 2 degrés, d'accord, à définir. Et évidemment, tout ça, pour s'engager sur un objectif à plus de degrés, c'est déjà assez compliqué. Ça implique plein de choses sur les transports, la gestion des ressources, la déforestation, etc. etc. Et donc, il y avait plein de propositions qui étaient faites en dessous de cet objectif et nos apprenants devaient les négocier. Et comme c'est super dur de pouvoir négocier ces textes-là, parce qu'il faut qu'ils se sentent quand même impliqués, on avait commencé à mettre en place un peu une espèce de gamification avec des points et puis des outils à utiliser, tu vois, les crédits carbone, etc., que tu pouvais utiliser, ceux que tu avais en stock. Et l'idée était de mettre 2 représentants par pays. Et de pouvoir les envoyer dans 2 négociations différentes et puis de refaire le bilan après avec son partenaire pour voir s'ils avaient grillé tous leurs points, etc. Donc, cette simulation donc, est un peu tombée à l'eau, mais j'en profite pour lancer un peu un appel aux auditeurs d'Agito, des agités, parce que maintenant que c'est plus à l'ordre du jour pour nous, je peux carrément ouvrir ce projet, et si ça tente d'autres personnes de participer à l'élaboration, j'ai travaillé sur Trello avec mes collègues, et donc plus on est de fous, plus on rit. Si des gens veulent nous rejoindre pour participer à l'élaboration de cette simulation et puis la revoir un peu, nous contacter et puis moi je serais content de leur montrer ce qu'on a fait et puis de continuer à avancer avec eux.
Super, merci.
Ouais.
Si l'appel est lancé, si parmi nos auditeurs, ouais. Il y a des gens ouais. qui sont intéressés, ça a l'air super intéressant en tout cas, très bonne idée le coup d'avoir ces petits crédits carbone à dépenser.
Ouais,
ça fait un petit peu ça fait jeu de société quelque part.
C'était un peu ça parce... Oui, pardon, Pascaline.
Non, je t'en prie, Sam.
Ouais, c'était un peu obligatoire de passer par la gamification parce que sinon, tu t'apercevais que pendant les négociations, ce qu'on a pu tester un peu, il n'y avait pas d'enjeu. Donc, si tu dis oui, je vais dire à mes entreprises de moins polluer, quelles conséquences ça a, toi, sur ton économie, sur les gens, etc. On peut pas se permettre ça. Donc voilà, c'est un projet qui est en suspens et que moi j'aimerais bien ne pas laisser en suspens. Donc si d'autres personnes veulent se joindre à moi pour le lancer, ils seront les bienvenus parce que ce serait sympa de le mettre en place, puis de le mettre en place un petit peu dans différents contextes pour voir comment ça se passe.
Mmh. Bon, alors c'est fini les agités de la classe ? C'est déjà fini
les agités de la classe,
On a bien échangé, on a bien débattu sur le point qui tue. D'ailleurs, si vous aussi vous avez un point qui tue à nous soumettre, n'hésitez pas à nous l'adresser. Nous plancherons dessus et nous en débattrons. Et puis n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mais alors seulement des commentaires super positifs. Donc sur iTunes en particulier, on se disait ça tout à l'heure avec Seb, ce serait bien, 5 étoiles, on aimerait bien. Et puis sinon, si vous souhaitez nous retrouver, on est présent sur Agito, sur Agitox, sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes, PodCloud, qui est un service très sympa. Je cite Seb. Voilà, au revoir Seb et Fred, je vous dis à très bientôt sur le Trello.
Ouais, revoir, et puis au revoir Pascaline, au revoir Fred, et puis on va souhaiter à tout le monde bon cours.
Bon cours, et même une bonne soirée pour ceux qui sont à l'heure de France.
À une prochaine fois.
Salut.
Salut.
Eh bien, on espère. Pardon, ok. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Eh bien, c'est un peu tendu en ce moment.
J'adore.
Tu peux rajouter comme un string, quoi.
Je sais plus, ça marche comment dessiner, c'est gagné.
Tu dessines et puis celui qui devine a gagné.
Oui, c'est ça, ok. Okay.
Bien, bon. Arrête. C'est horrible.
Et toi, Fred, t'en penses quoi ?
Non, mais j'étais parti pour faire la transition, moi.
Bon, toi, Fred, tu n'en penses rien. Tu es parti pour faire la transition, c'est ça ?
Merci beaucoup, Pascaline, pour cette ressource.
Mais de rien, Fred.
Passer à l'expérience ?
Ouais, moi, je suis d'accord. Donc, c'est Seb, hein, c'est...